journal international avec vous, Julien Coquelrohem. Bonjour.
Bonjour Juan. À la une de ce journal, les gardiens de la révolution peut-être bientôt classés terroristes par l'Union européenne. Les 27 se penchent aujourd'hui sur la réponse à apporter à la répression brutale de la contestation en Iran. Dans ce journal également, le Venezuela et le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio, entendu hier au Sénat. Il espère l'ouverture prochaine d'une représentation diplomatique à Caracas et puis des suspensions et de lourdes amendes. La CAF annonce ses sanctions contre le Sénégal et le Maroc après la finale chaotique de la CAN il y a une dizaine de jours. L'Iran le doigt sur la gâchette, les mots du chef de la diplomatie de Téhéran face aux intentions américaines qui se précisent. Donald Trump a prévenu, hier il frappera le régime encore plus durement qu'au mois de juin, faute d'un accord prochain sur le programme nucléaire. L'Iran répond être prêt à négocier mais aussi à riposter à toute attaque. Et pendant que Donald Trump remet le nucléaire au premier plan, les Européens se penchent de nouveau de leur côté sur la répression sanglante de la contestation ces dernières semaines. Une réunion des 27 ministres des Affaires étrangères de l'UE est prévue aujourd'hui pour y répondre, et notamment pour statuer sur cette proposition de l'Italie, celle d'inscrire les gardiens de la révolution sur la liste européenne des organisations terroristes. La France a soutenu hier cette initiative et cela reviendrait à s'attaquer à un pilier du régime, Abla Jounaïdi.
Pour plusieurs pays européens, il s'agit d'adresser un message alors que le corps des gardiens de la révolution islamique joue un rôle central dans la répression des manifestants depuis un mois. Créé en 1979 autour du fondateur de la République islamique, l'ayatollah Khomeini, comme une armée idéologique chargée de défendre la révolution islamique, elle s'en est acquittée en matant révolte après révolte toute voix dissidente avec le soutien du Basij, son réseau paramilitaire de volontaires. Forces armées agissant comme un état dans l'état, les gardiens de la révolution iraniens possèdent et développent leurs capacités terrestres, cyber, aériennes, marines, tout en ayant la main sur le développement des missiles balistiques et du programme nucléaire. Malgré le régime de sanctions économiques visant l'Iran depuis des années, les Pasdaran ont consolidé leur mainmise sur l'économie. Via un conglomérat public, aucun domaine ne leur échappe, de la construction aux télécoms, en passant par les banques, l'alimentaire et l'énergie. Des sociétés écrans et des intermédiaires permettent à cette armée idéologique du régime de contourner les sanctions imposées ces dernières années et de continuer à financer au fil des ans des opérations militaires dans la région, ce qui lui a valu d'être inscrite sur la liste terroriste des États-Unis.
Abla Jounaïdi est face à cette menace contre les gardiens de la révolution. L'Iran met en garde contre des conséquences destructrices. L'Union européenne devrait aussi annoncer de nouvelles sanctions contre des entités et des individus liés au régime iranien. Qu'il reste à Washington, clame Delcy Rodriguez à Caracas, bientôt un mois après l'enlèvement de Nicolas Maduro par les États-Unis. Les mots de la présidente vénézuélienne par intérim pour cibler, sans la nommer, la chef de file de l'opposition, Maria Corina Machado. Delcy Rodriguez fustige les opposants versés dans l'extrémisme. L'armée et la police lui ont à nouveau juré leur loyauté hier lors d'une cérémonie, alors qu'à Washington, justement, le secrétaire d'État américain Marco Rubio comparaissait devant le Sénat pour expliquer la politique des États-Unis envers le Venezuela. Il évoque des progrès satisfaisants dans les relations entre les deux pays et ouvre la voie à une prochaine, au retour prochain d'une représentation diplomatique sur place à Caracas. Correspondance Alice Campagnol.
Marco Rubio a défendu hier la politique de Washington au Venezuela, une politique qu'il a en grande partie façonnée. Il a affirmé contrôler de près le travail des autorités vénézuéliennes. Pourtant, dimanche dernier, la présidente intérimaire affirmait en avoir assez des ordres de Washington. Côté opposition, autre son de cloche. Maria Corina Machado, l'opposante en exil et prix Nobel de la paix, a rappelé sa confiance totale dans le plan actuel.
Il y a peu de gens qui connaissent aussi bien l'Amérique latine que le secrétaire Rubio. Et dans sa vie, il a fait de la lutte pour la liberté et de la lutte pour la démocratie une priorité. Il aspire à ce que, pour la première fois dans l'histoire, nous ayons un hémisphère libre de communisme, de dictature et de narcoterrorisme.
Si beaucoup voient dans l'intervention américaine une volonté de faire main basse sur les ressources du pays et d'installer des entreprises américaines au Venezuela, pour Maria Corina Machado, démocratie et économie vont de pair.
Quand la souveraineté populaire sera écoutée et que nous pourrons avancer vers un processus de transition, cela attirera des investissements importants au Venezuela, dans un État transparent, sûr et où la loi sera respectée.
Marco Rubio, tout comme Maria Corina Machado, n'ont pas évoqué de date pour l'organisation d'élections libres au Venezuela. Alice Campagnol, Caracas, RFI.
L'actualité diplomatique marquée aussi ce matin par la visite de Keir Starmer en Chine qui se poursuit. Le Premier ministre britannique a rencontré Xi Jinping. Les deux hommes ont plaidé ce matin pour un renforcement des relations entre Pékin et Londres. Plusieurs accords doivent être signés aujourd'hui. Et Keir Starmer salue à l'instant une réunion très constructive avec de vrais résultats, des progrès vraiment bons, dit-il. Notamment sur les droits de douane, sur le whisky et les exemptions de visa. Il affirme aussi avoir évoqué les questions qui fâchent, notamment la condamnation à Hong Kong de l'ex-mania Jimmy Lai et la question de la minorité ouïghour. À la une également, ce serait un signal catastrophique. L'inquiétude des ONG de défense du climat face à cette proposition des sénateurs macronistes, une loi pour lever dans les outre-mer françaises l'interdiction de recherche, d'exploration et d'exploitation des hydrocarbures. Le texte doit être examiné aujourd'hui. Et s'il vient d'élu du camp présidentiel, le gouvernement va finalement émettre un avis négatif contre lui. La ministre de la Transition écologique a mis sa démission dans la balance. Il faut dire que ce serait un recul puisque l'exploration et l'exploitation de nouveaux forages de pétrole et de gaz est interdite en France depuis 2017, Jeanne Richard.
Entre la destruction de la faune et de la flore, les émissions de gaz à effet de serre et les risques de fuite de pétrole et de marée noire, la relance de l'exploration et de l'exploitation des hydrocarbures serait grave pour l'environnement, explique Juliette Renaud, coordinatrice des Amis de la Terre. Cela ne relancerait pas non plus le développement économique en Outre-mer, selon elle.
C'est plutôt en faire des zones de sacrifice, les réduire encore, comme au temps des colonies, finalement, à des zones d'extraction des ressources au bénéfice de la métropole. Ça ne va pas non plus créer des emplois au niveau local, ça va plutôt en détruire, puisque ça va affecter les économies locales, que ce soit la pêche en première ligne, mais aussi le tourisme.
Reste que la France est largement dépendante des importations de gaz et de pétrole, ce qui lui coûte des dizaines de milliards d'euros chaque année, argumentent les élus favorables au texte.
Cette loi serait un vrai retour en arrière. Pour moi, c'est une loi anachronique. On replonge dans une dépendance encore plus forte aux énergies fossiles. C'est à l'encontre de tous les engagements climatiques internationaux de la France.
Pas la peine de relancer le pétrole et copier Donald Trump, tacle-t-elle, d'autant que les Outre-mer ont un fort potentiel en énergie renouvelable.
Jeanne Richard, et puis sa décision était attendue plus de 10 jours après la finale rocambolesque de la CAN. Remportée par le Sénégal face au Maroc, la commission de discipline de la CAF, la Confédération africaine de football, a publié cette nuit ses décisions. Lourdes sanctions pour les deux équipes, mais tout particulièrement pour les Lions de la Teranga, Cédric De Oliveira.
On s'attendait à ce qu'ils soient lourdement sanctionnés pour avoir demandé à ses joueurs de quitter le terrain après le fameux pénalty controversé sifflé en faveur du Maroc. Pape Thiaw, le sélectionneur des Lions de la Teranga, a écopé d'une suspension de 5 matchs officiels. Il lui est reproché un comportement antisportif qui porte atteinte à l'image du football. Une sanction qui s'appliquera lors des prochains matchs des éliminatoires de la CAN 2027, mais qui ne concerne pas la Coupe du Monde prévue cet été. Thiaw écope aussi d'une amende de 100 000 dollars américains. Ismail Assar et Illiman Diaye, deux joueurs particulièrement virulents avec l'arbitre de la finale, ont été sanctionnés de 2 matchs de suspension. Quant à la Fédération sénégalaise de football, elle devra régler une amende totale de 615 000 dollars, notamment à cause du comportement de certains de ses supporters qui avaient tenté d'envahir le terrain et attaquer des stadiers. Côté marocain, le défenseur et capitaine Achraf Hakimi sera lui suspendu pour 2 matchs, dont un avec sursis pour avoir tenté d'éloigner la serviette du gardien sénégalais Edouard Mendy au cours de la rencontre. Un comportement jugé antisportif par la CAF. Même chose pour Ismaël Saïbari qui sera lui suspendu de 3 matchs. Quant à la Fédération Royale Marocaine de Football, elle devra s'acquitter d'une amende de 315 000 dollars pour le comportement des ramasseurs de balles, l'envahissement de la zone du VAR et l'usage de laser par ses supporters.
Cédric De Oliveira, et puis le foot sur les pelouses européennes hier soir. Le dénouement de la phase de ligue de la Ligue des Champions. Les 36 équipes en lice sont fixées sur leur sort. Le PSG qualifié seulement pour les barrages pour l'instant. Après son match nul 1-1 contre Newcastle. Des barrages que disputera aussi le Real Madrid après sa défaite face au Benfica 4-2. Le club de Lisbonne qui en inscrivant un dernier but à la toute dernière minute est passé juste devant Marseille. Au classement, l'OM est éliminé cruellement.